Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, H comme Houston, John Houston, l'aventure avant tout, avec Christophe Leclerc, Luz et Fernando Ganzo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Pour Orson Welles, c'était le meilleur, le seul à faire une œuvre, c'est-à-dire à poursuivre de film en film une pensée personnelle. Pour Jean-Pierre Melville, il avait forgé une œuvre exemplaire, une œuvre qui sert d'exemple. Dans leur début de carrière, Scorsese, Raphaelson, Altman et Coppola lui ont fait allégeance. Du Faucon Maltais en 1941 au Jean de Dublin en 1987, John Huston a fait preuve d'une longévité exceptionnelle et tourné sans discontinuité. Bon nombre des films qui ont fait la légende, voire le mythe du cinéma américain. Le trésor de la Sierra Madre, Key Largo et African Queen avec son complice Humphrey Bogart, Quand la ville dort, Moby Dick, Les Désaxés, Freud, Passion secrète, La nuit de l'iguane, Reflet dans un œil d'or, Fat City, L'homme qui voulut être roi et j'en passe. Des films plus méconnus ou incompris aussi comme Promenade avec l'amour et la mort ou Le malin. Et puis, il faut le dire aussi, pas mal de films oubliables à cause de cette prolixité, 40 longs métrages, de cette irrégularité qui lui a longtemps collé une étiquette tenace de dilettante. Pour avoir beaucoup adapté d'œuvres littéraires aussi, John Huston a fait l'objet de violentes controverses critiques, notamment entre Positif qui l'encensait et Les Cahiers du cinéma qui lui déniaient la qualité d'auteur. Or, cette œuvre éclectique, collection de fieffés buveurs et de losers magnifiques, d'aventuriers errants, d'âmes égarées et de gueules cassées, lui ressemble indéniablement à ce colosse bourlingueur et libertaire, frondeur et fort en gueule, mais aussi fragile et cabossé qu'était Houston. Pour parler dans Plan large ce samedi de cette œuvre volontiers blasphématoire et foncièrement existentialiste, un historien du cinéma, Christophe Leclerc, auteur du cinéma de John Houston entre l'épique et l'intime, et un dessinateur, Luz, qui a tiré de sa fréquentation forcenée des Misfits, vu une bonne vingtaine de fois, la matière d'une bande dessinée habitée sur les coulisses de son tournage, un cri rageur contre l'industrie du spectacle en général et Hollywood en particulier, Hollywood menteur qui vient de paraître. En fin d'émission, Fernando Ganzo nous parlera d'une autre cinéaste singulière, Patricia Mazui, hantée par le cinéma américain et amoureuse des vaches, mais c'est par un drôle d'oiseau que commence cette émission.
Now what can I do for you, Mr. Cairo?
May a strange offer condolences for your partner's unfortunate death.
Thanks.
Is there, Mr. Spade, as the newspapers imply, a certain relationship between that unfortunate happening and the death a little later of the man Thursby? I beg your pardon, no. More than idle curiosity prompted my question. See, Mr. Spade, I'm trying to recover ornament that, shall we say, has been mislaid.
Uh-huh.
I thought and hoped you could assist me. The ornament is a statuette. Black figure of a bird. I am prepared to pay on behalf of the figure's rightful owner the sum of $5,000 for its recovery. I am prepared to promise that, what is the phrase, no questions will be asked.
$5,000 is a lot of money. Yes, Effie? No, that'll be all. Just be sure to lock the door behind you on your way out. Good night. $5,000 is...
You will clasp your hands together at the back of your neck. I intend to search your offices, Mr. Spade. I warn you, if you attempt to prevent me, I shall certainly shoot you.
Go ahead and search.
You will please come to the center of the room. You'll have to make certain that you're not armed.
Il ne se laisse pas impressionner comme ça, Sam Spade, même quand on lui tient un revolver en joue et qu'on menace de fouiller son bureau. C'est le Faucon Maltais, 1941, premier film comme réalisateur d'un scénariste qui est alors tricoté à Hollywood, comme à la même époque Preston Sturges et Billy Wilder. On avait les deux déroulé leur carrière dans Plan Large. Alors John Huston, à cette époque, écrit notamment pour William Wyler, pour Anatole Litvak, pour William Dieterle, pour Raoul Walsh, Ice Sierra. On en avait parlé là aussi dans notre émission consacrée au film noir, le film qui, juste avant le Faucon Maltais, contribue à changer déjà l'image d'Humphrey Bogart, qui était abonné au rôle de gangster très très cruel avant ce film. Mais alors, première caractéristique de Huston, au lieu de porter un scénario original comme il aurait pu le faire, puisqu'il était ce grand scénariste que je viens de décrire, il adapte un livre, et quel livre? Le livre très hard-boiled de Dashiell Hammett, Le Faucon Maltais. C'est pas la première adaptation, hein. Le remake à Hollywood, c'est une vieille histoire. Il y en a eu deux auparavant. Un réalisé par Roy Dahlerout et l'autre par William Dieterle, justement. On en parlait, qui sont sortis quasiment, il y en a un 10 ans avant, 1931, l'autre 1936. Coup d'essai, coup de maître de John Huston. On oublie complètement les adaptations précédentes du Faucon Maltais. Il installe un type qui va être très utilisé. Christophe Leclerc, par la suite, c'est celui du détective privé, un peu voilà, hard-boiled, comme on dit, c'est-à-dire dur à cuire, quoi.
Tout à fait. Il y a déjà des films de détectives auparavant, avant 1940-41, donc avec le Faucon Maltais, notamment d'ailleurs un rôle répétitif de Peter Lorre, Mister Moto. Je crois qu'il a fait 8 films autour de cela. D'autres personnages comme Philo Vance, Nick Carter, mais aucun n'a la force, la puissance de Sam Spade avec l'incarnation de Bogart. Alors Bogart, vous l'avez dit, hein, c'est un acteur qui a déjà roulé sa bosse. Il a 40 ans, il a déjà fait une quarantaine de films, mais effectivement là, il impose avec l'appui de Huston, il impose un personnage, un détective cynique, froid, distancié, individualiste. Prêt finalement à lâcher la femme qu'il aime, c'est ce qu'il fera à la fin du film. Hein.
Oui, ça fera beaucoup parler, cette fin terrible, voilà, du Faucon Maltais.
Au passage, le film sort à l'été 46 en France, puisque bien évidemment, sous l'occupation allemande, finit le cinéma américain. Il sort en même temps que Laura d'Otto Preminger, en même temps qu'Assurance sur la mort de Billy Wilder, et finalement, il fait pas un très gros succès. Alors qu'aux États-Unis, il a très très bien marché. Pour revenir à la question de l'adaptation, chez Huston, effectivement, c'est un adaptateur. Mais ce n'est pas quelqu'un qui plagie. C'est quelqu'un qui, à la fois, essaye de rester fidèle, sinon à la lettre, à l'esprit du roman. En l'occurrence, dans les romans policiers, celui de Hammett ici, celui de Burnett avec Quand la ville dort, il arrive à rester très fidèle à la trame du récit. Il invente, évidemment, il réinvente des dialogues. Ailleurs, on verra qu'il transforme la matière assez profondément.
Ça, on le verra ensuite. Mais grand apport de John Huston, sans doute, à cette adaptation et au cinéma en général, ce sont les seconds rôles. C'est les types. Là, on vient d'entendre Peter Lorre, donc qui n'est plus un détective, mais qui est un truand pour le moins ambigu. Il y a le formidable Sidney Greenstreet, ouais. cette obèse qu'on retrouvera par la suite jusqu'à Casablanca. Et puis, ils vont être tous un peu réutilisés. Elisha Cook Jr. est extraordinaire. Second rôle du cinéma hollywoodien, et tout ce bestiaire de la pègre américaine fait le sel des films. Huston, Le Faucon Maltais, Luz, ça fait partie de votre univers cinématographique?
Moi, ça fait partie de l'univers de l'enfance, en fait. Ça fait partie, c'est comme tous les westerns. La seule différence, c'est qu'il a fallu...
Alors, c'est pas un western, c'est un polar.
Non, comme tous les westerns. Non, dans le sens où, aussi, comme toute la mythologie américaine. C'est-à-dire que je suis né en 72, et puis voilà, il y a cette mythologie américaine qui est arrivée sur les écrans français. Moi, j'ai plutôt vu, justement, j'ai vu Le Faucon Maltais, je pense que ça devait être probablement au ciné-club, ou peut-être en deuxième partie d'une dernière séance quelconque. Il y avait cette, Le Faucon Maltais, enfin, Huston, que ce soit le polar, que ce soit le western, c'est l'Amérique. C'est quelque chose qui est presque un exotisme à conquérir et qui devient finalement après une espèce d'extraction de nous-mêmes, puisque on est complètement possédé par Sam Spade quand même. C'est aussi un truc intéressant, c'est que finalement c'est Humphrey Bogart, mais son premier rôle c'est quand même un personnage plus que Marilyn qui peut-être eu la difficulté d'incarner ces personnages. On se souvient presque assez peu du nom de ces personnages. Par contre, Humphrey Bogart, Sam Spade, c'est une espèce d'incarnation de composition absolument parfaite entre la personne, l'acteur et le personnage.
Ce qui est très frappant avec ce film, c'est qu'il pose des bases, on l'a dit. D'ailleurs, Howard Hawks s'en souviendra quand il réutilisera Bogart, alors là, cette fois en Philippe Marlowe, dans Le Grand Sommeil. C'est une des œuvres inaugurales du film noir. Et paradoxalement, alors qu'il contribue à le créer, John Huston s'empare très peu de ce genre. Il ne va pas faire partie de tous ces réalisateurs qui, dans l'après-guerre, vont faire la grandeur du film noir. Il introduit le personnage de la femme fatale. Alors certes, c'est Marie Astor, c'est pas Barbara Stanwyck ou Lana Turner, ni même Rita Hayworth. Donc on se souvient assez peu d'elle. Donc il s'empare assez peu de ce genre. Mais 10 ans après, il donne tout de même ça.
Count it.
Look, Dix, you don't have to pay the whole tab at once.
Go ahead and count it.
Why get sore? There's no reason to get sore.
You boned me in front of a stranger, trying to make me look small.
I tell you, I didn't mean it. I shoot my mouth off. Maybe I had a slight load on. You know how it is, huh?
No, I don't know how it is.
Look, Dix, I made a mistake. Don't you ever make a mistake. Sure. Here, have a drink. Yeah? There you are, Dix. You know, Dix, you got to play the horses the smart way. Save your money. The next time there's a fix going, I'll let you know. It'll be money from home. Money from home. Excuse me. Oh, it's the doc. Come on in, Doc. I want you to meet a friend of mine, Dix Hanley. This is Doc Reed Schneider. You heard of him, I guess, huh?
Yeah.
Well, how'd you like the whiskey? Made in your home state? Oh, there's that, sir.
Kentucky. Boone County, Kentucky. Best water in the USA.
Is that so?
Yes, the water makes the whiskey fit to drink. Well, I gotta be going now. See you around sometime, maybe.
So long, Dix. Big hick. The color of his money's all right, but I wish he wasn't so touchy.
Maybe it's a point of honor with him, a gambling debt.
Him, that hooligan, honor? Don't make me laugh.
He's a hooligan, you say?
Yeah, but a small time, a little stick-up cigar stores, gas stations. And every cent goes to the ponies.
One day or another, I'll be all right, Clarvice.
D'une façon ou d'une autre, nous travaillons tous pour nos vices. C'est Quand la ville dort de John Huston. On est en 1950. Vous le notez, Christophe Leclerc, dans votre livre, Le cinéma de John Huston, entre l'épique et l'intime, que dans ses mémoires, Huston n'accorde même pas 10 lignes à Quand la ville dort. Pour lui, c'est un film opportuniste. C'est un film qu'il fait très cyniquement en se disant, bah voilà, un film noir, ça va marcher. Je suis très lourdement endetté. Or, il crée avec ce film pour quelqu'un dont on a toujours dit qu'il n'avait à peu près rien apporté à l'histoire des formes cinématographiques. Il apporte quand même un modèle, une matrice qui sera celle de tous les films de braquage, ce qu'on appelle les heist movies, avec ce déroulement imperturbable qui en devient un cliché après lui. Il y a la préparation, il y a l'exécution et puis il y a la cavale. Bon, cavale qui se termine pas très bien dans le cas de Quand la ville dort, mais donc Huston, créateur de formes. Christophe Leclerc.
Tout à fait. Il est vrai qu'il n'accorde pas, dans ses propos ou dans ses mémoires, la place que ce film mériterait. Ce n'est pas un film qu'il déteste, contrairement au Barbare et la Gaïcha avec John Wayne, contrairement au Vent de la Plaine, qu'il réalise vers 1960, des films de commande. Celui-là en est un aussi, mais... il est vrai qu'il ne le reconnaît pas à sa juste place, et vous l'avez dit, c'est un film qui définit le film de braquage, le film de casse. C'est ce que disait aussi, d'ailleurs, vous l'avez cité tout à l'heure, Jean-Pierre Melville, qui avait recensé 18 ou 19 situations types du film de casse dans celui-ci, et qui se disait « je ne ferai jamais aussi bien ». Bon, il a quand même fait le cercle rouge. Il n'est pas le seul au demeurant qui a été inspiré par Huston et par Quand la ville dort, puisque Dassin, en France, a fait du rififi chez les hommes, où il reproduit des situations. Kubrick, Ultime Razzia, hein, cette fois-ci c'est sur un champ de course. Réutilisant Sterling Hayden, exactement. Et puis quand même, on y viendra peut-être, la fin de Quand la ville dort, qui n'est pas dans le roman, hein, c'est-à-dire la mort de Sterling Hayden dans un champ, dans les prés, l'agonie avec des chevaux qui l'entourent, a inspiré aussi Cavalier dans l'Insoumis, à mon sens. C'est-à-dire qu'Alain Delon, après une cavale, vient mourir dans une ferme, à peu près de la même manière, au fond, si ce n'est pas dans un grand espace et dans une pièce, mais néanmoins, je pense qu'il y a un lien.
Alors, c'est à ce film, entre autres, qu'on doit un des clichés critiques, pour le coup, sur John Huston. John Huston, dans ce film, a une sympathie énorme, on le sent, pour tous ces losers, pour tous ces cabossés, pour la complexité même de chacun des personnages. Hein. C'est très curieux. Jamais il ne les filme avec surplomb. Il est toujours en empathie avec leur névrose et leur folie. Mais on va faire de Huston, notamment à cause d'un jeune critique des cahiers du cinéma de l'époque appelé à un brillant avenir, Gilles Jacob, qui va dire, voilà, John Huston, c'est le cinéaste de l'échec. Il n'aime rien tant que voir les gens se vautrer dans leur échec. Or, évidemment, c'est plus compliqué.
Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça, dans le sens où cinéaste de l'échec, peut-être, mais ce n'est pas ce qui compte pour Huston. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas le but, ce n'est pas la finalité, ce n'est pas de réussir, c'est le voyage. C'est le fait de
l'aventurier.
C'est l'aventurier au long cours, c'est le fait de se chercher, de tenter de se trouver, de se dépasser, de se transcender. En fait, Huston, c'est le cinéaste de la condition humaine. Et on y viendra peut-être aussi, cinéaste de la condition humaine contre Dieu, quelque part. Pour Huston, qui est plutôt un agnostique...
Oui, laisser Dieu de côté, il va arriver assez tôt dans cette émission.
Sans problème.
Il va arriver assez tôt, en tout cas, condition humaine, illustration.
How much do you think this mare will weigh, Guido?
About 600 pounds, I guess.
Yeah, it must be about 400 on that brown, huh?
Just about, yeah.
Must be about 800 on the stallion.
Well, a little light. It'll be about 1,900, 2,000 pounds.
Well, how does that all come out?
Well, 6 cents a pound. It'll be about $110, $120.
How do you want to cut it up?
Any way you like. I'll take 50 for myself and the plane.
Okay. I ought to have about 40 for the truck and me. That leaves 25 for you, Purse. That all right? Purse!
No, you fellas take it. I just came along for the ride anyway.
She's crazy. They're all crazy. You try not to believe it because you need them. She's crazy. You struggle, you build, you try, you turn yourself inside out for them. But it's never enough. So they put the spurs to you. I know, I got the marks. I know this racket. I just forgot what I knew for a little while.
Les femmes sont folles, on a beau faire, ce n'est jamais assez, se plaint Guido Eliou Wallach dans Les Désaxés de John Huston, parce que celle qu'on vient d'entendre crier sa colère, c'est évidemment Marilyn Monroe. C'est la scène.
Elle a fait du chemin, parce que dans quand la vie dort, la description qu'on fait que le personnage fait de Marilyn, qui apparaît levée dans un canapé,
première apparition de Marilyn Monroe.
Qu'elle est gentille, voilà. Elle est gentille, elle est gentille. Il répète plusieurs fois ce mot.
C'est la femme poupée. Alors qu'ici, c'est une femme qui va crier sa colère. Et c'est, j'imagine, Luz, la scène un peu originelle de votre livre, parce que ceux qui ont vu l'hémisphère se souviennent que cette colère est filmée dans un plan très, très, très lointain. Ouais. On voit au fond du désert Marilyn Monroe les traiter, ces trois hommes, de menteurs et d'assassins. Il était nécessaire de lui donner un gros plan. Et c'est ce que vous faites, Luz,
oui,
dans Hollywood Menteur.
Au début, avant même de vouloir lui donner un gros plan, peut-être que j'étais un peu prudent. J'ai voulu me rapprocher et voulu savoir être derrière elle, regarder qu'est-ce qu'elle voyait, tout bêtement. Un des premiers dessins que j'ai fait pour les cahiers du cinéma, qui pourtant n'avait pas forcément rendu hommage à John Huston jusqu'à présent.
C'est pas un auteur très cahier, non?
C'est pas un auteur très cahier. Et quand j'ai commencé la série qui s'appelait à l'époque Les Misfits, avant de s'appeler Hollywood Menteur pour les cahiers, le premier truc que j'ai dessiné, c'est elle, de dos, devant cette équipe. Et puis en réfléchissant, je me suis dit, mais attends, là, elle est en pleine. Elle est avec Paula Strasberg, elle est en pleine. Elle sort juste justement de l'acteur studio. Elle est en pleine obsession du discours de la méthode. Et je me suis dit, mais forcément, pour faire ce rôle, qui peut-être faire ce rôle, en tout cas faire cette scène, qui est la seule scène qu'elle a faite de toute sa vie d'actrice de colère, forcément elle a dû s'investir de son passé, de son passif, de ses énervements, et donc quelque part, il était possible que cette scène-là soit le rôle le moins de composition qu'elle ait eu à faire. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout devait sortir, tout devait être utilisé dans sa colère à elle, de femme qui a été peut-être un petit peu maltraitée par Hollywood, maltraitée par les hommes, puis qui subissait aussi, ça c'est ce que j'ai appris en étudiant un peu sur elle, quelqu'un qui avait aussi qui a une maladie physique, qui avait l'endométriose, donc qui, voilà, c'était cette petite personne, cette actrice considérée comme une femme un peu fragile et un peu capricieuse, parce qu'elle n'était jamais là à l'heure au rendez-vous, bah finalement, peut-être que c'était une femme courageuse. Et peut-être qu'à ce moment-là, sur cette scène, et on l'entend bien dans l'extrait que vous avez choisi, c'est pas une colère feinte, ce ne sont pas des cris fins, alors qu'en plus, d'habitude, dans tous les tournages, et particulièrement sur celui des Misfits, on n'arrivait pas à l'entendre. Les ingénieurs du son s'arrachaient les cheveux pour essayer de trouver un souffle, un mot audible de Marilyn Monroe.
Et on n'arrive presque pas à faire le point sur elle, c'est très curieux. En revoyant le film, je me suis rendu compte que dans les chants contre chants, très souvent elle est floue. Ouais. Marilyn Monroe, je me suis demandé si c'était la copie qui était comme ça, mais non, parce que le plan d'après est parfaitement net. Alors, ce qui fait évidemment de The Misfits un grand film moderne, c'est qu'il raconte presque les conditions de son tournage. On s'en rend compte quand on lit votre bande dessinée, Luz, Hollywood menteur, et que c'est aussi un film charnière. C'est un film important dans l'œuvre de John Huston, parce que autant il raconte la fin d'un monde, qui est la fin du western, qui est la fin du classicisme hollywoodien, aussi d'une certaine façon, c'est aussi pour Huston, vous l'écrivez, Christophe Leclerc, le passage de l'aventure extérieure, l'aventure au long cours, à l'aventure intérieure. Et c'est pas pour rien que très peu de temps après, avec Montgomery Clift qui est dans les désaxés, il va faire Freud, Passion secrète.
Oui, c'est un film charnière. Effectivement, la dizaine d'années qui précède, c'est un réalisateur de studio, au fond, sous contrat avec la Warner, sous contrat pour deux films avec MGM. Et là, il passe à la réalisation de films pour des producteurs indépendants. Et ça durera, d'ailleurs. Le film est un révélateur autobiographique des personnages, et c'est ça qui est saisissant, et c'est certainement ça qui fait le mythe aujourd'hui, parce qu'en soi, en tant que tel, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Mais la force de vérité des personnages, ce qu'ils révèlent d'eux-mêmes, en fait probablement le mythe. Moi, j'ai cité des dialogues qui sont fascinants. Clift téléphone à sa mère à un moment et il lui dit « Mon visage a cicatrisé, il est comme neuf, tu me reconnaîtrais. » Bah, il se trouve qu'auparavant, comme le met Luz dans sa bande dessinée, comme il l'expose très brillamment, il avait eu un accident de voiture qui l'avait défiguré. Gable, sa compagne attendait un enfant qu'il ne connaîtra pas, puisque...
Il meurt quelques semaines après la fin du tournage.
Il meurt 10 jours après la fin du tournage.
Oui, 10 jours même.
Et il dit à un moment, si j'avais un nouvel enfant, je saurais comment être avec lui, comment faire. Voilà, mais c'est assez incroyable, c'est assez saisissant. Hein. Après, ce qui me plaît beaucoup dans le film, si j'accepte la photo, parce que, vous l'avez suggéré Antoine, si John Huston n'est pas un styliste en tant que tel, ça l'intéresse assez peu.
Mais c'est pas Anthony Mann, par exemple.
Ce n'est pas Anthony Mann. Certes, on retrouve quelques traits caractéristiques de sa manière de filmer au travers des films. Des gros plans de visage, souvent, une espèce d'approche sociologique ou anthropologique. Des contre-plongées, souvent, les personnages sont filmés en contre-plongée. Mais ce n'est pas un styliste. Cette grammaire du cinéma, il appelait ça comme ça, l'intéresse, mais pas autant que le scénario, et surtout pas autant que les acteurs. Il adore regarder les acteurs jouer. Pour lui, l'important se fait au moment du casting. C'est le casting qui est crucial, et au moment du tournage, il laisse les acteurs relativement libres, pratiquement sans consigne, il leur parle assez peu, ça a déconcerté plus d'un acteur, et il y a une anecdote assez marrante, Elie Wallach sur le tournage des Misfits, lui dit à un moment donné, mais comment je vais jouer le fait que je suis sous.
On le voit très bien raconté dans votre bande dessinée,
lui. Et Huston lui répond, écoute, hier soir à Virginia City, j'étais complètement sous. Tellement sous que ça ne se voyait pas. C'est la consigne qu'il a donnée à Elie Wallach. Voilà.
Il dira aussi à propos de Clark Gable, parfois je filme une scène de deux façons, la mienne et la sienne, et souvent, comme par exemple avec Clark Gable, j'ai trouvé que sa version était plus cinématographique que la mienne.
No more, see? Stop it! So you need to go home.
I have no home.
Go home, I say. Take your dollars with you. I'm a rich man. I do not want your dollars. I do not want you dancing to my music.
More music?
No more music, señorita. We do not want our sons to know the young girls can be like you. Muchachos, vengan acá, esta mujer está fea de aquí. Échenla afuera.
Don't go back up.
Vengan acá.
Put me down. Let me go.
C'est Sue Lyon, la Lolita de Kubrick, qu'on entend encourager son héros du moment, jeune blanc-bec, bien blond, élevé au maïs, qui se fait corriger en musique par deux jeunes et faibles mexicains. On est dans La Nuit de l'Iguane, chef-d'œuvre absolu. Moi, je crois que c'est mon film préféré de John Huston en 1954. Alors, pendant cet extrait, et avant que je vous coupe, Luz, vous voyez un point commun entre les désaccès de Misfits, c'est La Nuit de l'Iguane, c'est l'acteur comme matière. Alors, quels acteurs il y a dans ce film? Richard Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr et Sue Lyon qu'on vient d'entendre.
Et Sue Lyon qui est probablement choisi parce que déjà avant, puisqu'elle avait fait Lolita, c'était une matière en tant qu'actrice, c'était quelque chose de formatable, qui avait déjà un vécu de personnage ou même un vécu d'acteur. Et puis là, clairement, si on n'avait pas remarqué qu'il utilisait déjà dans les Misfits juste la réalité des acteurs, la réalité de la personne qui avait derrière le personnage. Là, c'est assez clair avec Richard Burton, qui a l'air perpétuellement envapé. Et je pense que l'autre personnage qui est permanent dans l'ensemble de ces films, c'est l'alcool. C'est l'alcool. C'est-à-dire que depuis Let's Have a Drink, il y a peut-être cette réplique qui est permanente dans chacun de ces films. Je pense que l'alcool est peut-être même presque, c'est comme le cinquième Beatle. C'est celui qui est derrière, qui va guider peut-être déjà en amont, peut-être certains choix de Huston, qui va peut-être être là pendant le tournage. Et à la fois, je crois que l'alcool est à la fois scénariste, réalisateur et acteur dans les films de Huston.
Oui, d'ailleurs, ça fait partie de la légende de La Nuit de l'Iguane, qui allait avaler le plus de litres entre Richard Burton et lui, avec Elizabeth Taylor, qui est le sixième Beatles de ce film, puisqu'elle était sur le tournage et tous les paparazzi étaient là, puisqu'à l'époque, c'était la liaison adultère et scandaleuse entre Liz Taylor et Richard Burton. Mais puisqu'on parle de femmes et de l'évolution du cinéma de Huston, vous évoquiez tout à l'heure Marilyn Monroe en femme objet, femme poupée de Quand la ville dort. Ici, on a ce personnage extraordinaire de Maxine, joué par Ava Gardner, qu'il a fallu, là encore, persuader longuement, hein, une semaine de beuverie à Madrid avant de la convaincre de venir sur le tournage. Et vous en parlez, Christophe Leclerc, dans votre livre. Ava Gardner, c'est un peu la femme idéale pour John Huston. Il va la réutiliser par la suite, parce que c'est une femme libérée, c'est une femme mûre. Elle est dans la beauté magnifique de sa quarantaine à l'époque, et justement, on parlait de matière, il peut en faire quelque chose.
Probablement. C'est vrai qu'il la réutilise notamment dans Juge et hors la loi, face à Paul Newman en 1972, et à ce moment-là, elle ne fait que quelques apparitions dans le film, mais au fond, elle est utilisée pour ce qu'elle est, le mythe. Newman, en fait, est un shérif dans un bled paumé qui est fasciné par Lily Langtry, par son actrice fétiche, etc. Et il va dévouer un musée à ce personnage. Enfin, je ne développe pas, mais il est vrai que à partir des Misfits et puis dans les films qui suivent, Huston crée vraiment des rôles de femmes. ce qui n'était pas vrai auparavant. Je pense aussi à Elizabeth Taylor dans Reflet dans un œil d'or. Je pense à Angelica Houston qu'il fait débuter dans Promenade avec L'amour et la mort. Voilà. Des personnages comme ceux-là, pour ce réalisateur, j'allais dire de films mâles, de films virils, à la Hemingway en quelque sorte. Hein, il y a beaucoup de proximité entre Houston et Hemingway, y compris la beuverie, comme dit Luz. Eh bien, on ne les voit pas avant. On ne voit pas de rôle de femme marquante. Elles ne sont que des faire-valoir. Ce n'est plus vrai à partir des Misfits.
Et puis ce n'est pas pour rien, évidemment, que Richard Burton joue un pasteur alors qu'il n'est pas défroqué, il tient à le dire, il a juste été renvoyé de son église pour inconduite avec une mineure, mais il va s'affronter à Dieu, comme beaucoup de personnages des films de Houston. Il va dire qu'il ne veut plus servir ce Dieu cruel et aigri, et le grand problème sans doute des personnages de Houston, alors là on est dans quelque chose de presque bergmanien dans son approche, c'est que ce sont des hommes qui se battent contre Dieu en permanence, sauf que Dieu est introuvable.
Dieu est introuvable, c'est exactement ça. Houston disait dans ses interviews souvent, je pense que Dieu s'offre une cuite prolongée dans quelques lointaines galaxies. En ce qui le concerne, nous avons sans doute cessé d'exister. Voilà. Et c'est le problème de ces personnages. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils ne savent que faire de leur vie. Hein, dans les Misfits, c'est flagrant. Ils ne savent pas quelle direction donner à leur vie. Ils n'ont pas la foi. Et donc, cette espèce d'angoisse existentielle est terrifiante. Du coup, il faut s'affronter à quelque chose de supérieur, sinon donc insaisissable. C'est Moby Dick, évidemment, c'est la baleine blanche, l'incarnation de Dieu, quelque part, insaisissable, pour le capitaine Ahab. C'est les Mustangs, dans les Misfits. Ce sont les éléphants, dans les Racines du Ciel. Enfin, il y a souvent une incarnation comme celle-là. C'est aussi peut-être la quête de l'Eldorado, au fond, la quête du trésor, dans quantité de films.
Et la quête du trésor, en voici une.
Peachy, I'm heartily ashamed for getting you killed instead of going home rich like you deserve to, on account of me being so bleeding high and bloody mighty. Can you forgive me?
That I can, and that I do, Danny. Free and full, and without let or hindrance.
Everything's all right, then.
Son of God, go forth to war, a kingly crown to gain. Blood, red banner,
chosen few on whom the Spirit came. 12 valiant saints, their hope they knew, and mocked the cross and flame. He met the...
Après l'aventure intérieure, comme vous venez de le dire hors antenne, Christophe Leclerc, retour à l'aventure grand format, un film absolument génial. Je crois que c'est mon deuxième préféré après La Nuit de l'Iguane de John Huston. L'homme qui voulut être roi, ou comment affronter la mort en chantant avec cette bravade des héros houstoniens. Alors, vous vouliez revenir sur la question de Dieu.
On
revient jamais assez sur la question de Dieu.
C'est assez essentiel. Mais je pense que son côté agnostique, peut-être finalement ça a influencé peut-être son travail de réalisateur. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est pas un réalisateur démiurge, Houston. C'est pas justement quelqu'un qui va réalisateur qui va être Kubrickien, qui va tout régler la mise en scène, le cinéma, les acteurs, tout le monde est dans son pouvoir. Et peut-être que c'est ça aussi qui est un peu enseigné en filigrane à la fois dans son travail et puis dans les choix de ses scénarios et de ses acteurs, c'est que on est, faut laisser faire. Dieu n'existe pas, il est peut-être quelque part, peut-être que c'est au-dessus de lui, peut-être que c'est lui, peut-être que c'est celui qui lui paye, justement, ses parties de craps à Reno quand il travaille sur les Misfits. Mais c'est pas lui. Le réalisateur n'est pas un démiurge. Dieu n'est pas à la réalisation.
Et c'était même une philosophie, on pourrait parler de philosophie houstonienne, vous ne vous en privez pas, Christophe Leclerc, dans votre livre, vous le rapprochez de Sartre, rien moins que ça, et des grands stoïciens. Alors Sartre, évidemment, on connaît l'aventure de l'écriture du scénario de Freud, Passion secrète, ça se passe pas très très bien, on dira, entre les deux hommes, assez différents sans doute dans leur approche de la vie et de la jouissance qu'on peut en tirer, mais vous en faites tout de même un existentialiste, c'est-à-dire qu'au-delà même de la question du behaviorisme, qui pourrait le rapprocher d'Hemingway. Et ce qui compte, et on le voit très bien dans L'homme qui voulut être roi, ce qui fait la valeur d'un homme, ce sont ses actions.
L'homme est ce qu'il fait. C'est exactement ça. Donc c'est sartrien ou malrussien, hein, Malraux. C'est évident chez Houston. Et pour rejoindre Luz, c'est vrai que Houston ne toise jamais ses personnages. Il est à hauteur d'homme. Il les aime. Ils ne sont pas brillants. Ici, ce sont des fripouilles.
Ils sont tout à fait crapuleux.
Mais comme ils le disent eux-mêmes, après tout, c'est des nuisibles comme nous qui ont fondé ce foutu empire. Voilà. Et c'est pas faux. Donc, ils les aiment, ils les respectent, ils ne se moquent pas d'eux, au fond. En fait, il dit quelque part dans une interview qu'ils respectent tous les individus qui luttent pour leur dignité. Et ceux-là luttent pour leur dignité. Hein, ce sont des parias, ce sont des bons à rien, mais ils ont des rêves. Et leur rêve, c'est d'être des bâtisseurs d'empire. De devenir des rois, ce qui paraît complètement hallucinant.
Le problème, c'est qu'on les prend pour des dieux, et c'est là que ça se complique.
Et c'est là que ça se complique. Alors, on retrouve tous les thèmes fétiches de Houston dans ce film-là. La quête de l'Eldorado, du trésor, le voyage au long cours, auquel il revient avec ce film, alors qu'il l'avait un peu abandonné au cours des années passées. Il y a une réflexion sur le pouvoir aussi, qui est beaucoup plus forte que dans les précédents films. Et ce rapport à la religion, à la croyance, à la foi, qu'il aborde cette fois-ci de manière très originale, c'est un petit peu d'ailleurs dans la nouvelle de Kipling, hein, qui fait 60 pages, c'est l'ésotérisme au travers de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que dans leur parcours, ils sont identifiés comme les descendants, entre guillemets, d'Alexandre qui est venu il y a bien longtemps.
Sikander.
Par le fait qu'ils portent, enfin en tout cas l'un d'entre eux porte un pendentif avec les signes de reconnaissance franc-maçon, et il se trouve qu'Alexandre, dans l'esprit des autochtones, aurait été le fondateur de cette obédience. Voilà. Donc c'est assez amusant, ça n'est pas du tout sentencieux, jamais chez Houston. Comme le disait Antoine, il y a toujours un rapport aussi énorme à la drôlerie. Il fait de situations qui pourraient être tragiques ou dramatiques chez beaucoup de metteurs en scène, des situations extrêmement cocasses.
Et c'est ce qui désamorce, puisqu'on parlait de la nuit d'Iguane tout à l'heure, le symbolisme un peu lourd parfois de Tennessee Williams. Alors de l'ésotérisme à la métaphysique, il n'y a évidemment qu'un pas. Tell me the first token that passed between you and me. Oh, don't you remember that night on met together, which I'm sorry now to tell. Vous écoutez France Culture, plan large sur John Houston avec Christophe Leclerc, Luz et Fernando Ganzo. Ce qu'on entend, c'est un moment de grâce incroyable dans le cinéma de John Houston. Hors chant, un ténor chante la fille d'Ogrim. On voit Angelica Houston dans le rôle de Greta dans l'escalier. Derrière elle, il y a un vitrail qui lui fait presque une auréole. Et moment suspendu, moment de bascule du film aussi, Christophe Leclerc, puisqu'on passe de la chronique d'une fête familiale familiale dans le Dublin enneigé de 1904 à une réflexion sur la mort, alors qui est redoublée. On parlait du hors-champ qu'il peut y avoir dans les Misfits, qui s'appuie sur la réalité des personnages. Là, on s'appuie sur celle de Houston, puisqu'il va mourir avant même la sortie du film. Il meurt le 28 août 1987. Le film sort en décembre. Alors, tout le monde y voit un film testamentaire. Ce qui est très frappant, c'est qu'on a à la fin cette réflexion qui n'est pas très loin de l'extrait qu'on venait d'entendre de l'homme qui voulut être roi. Quelqu'un va dire, voilà, l'un après l'autre, nous devenons des ombres. Mieux vaut passer audacieusement le pas dans toute la gloire d'une passion plutôt que de se faner et de s'estomper morose avec l'âge. Et là, on est pareil, faisons face à la mort en chantant.
Oui, il n'y a pas de forfanterie chez Houston, jamais en fait. Hein. Bien que le personnage paraisse très haut en couleur, fantasque, etc., il n'y a pas de forfanterie. Et c'est vrai que dans ce dernier film, il se recentre compte tenu de ses moyens limités. Comme le dit Antoine, il est très malade, il est dans un fauteuil roulant, il est sous oxygène, sous assistance respiratoire, mais il n'en reste pas moins qu'il dirige ses acteurs tout de même. Il dirige le cadre, enfin, il est bien présent. Et il se recentre, donc compte tenu de ses moyens limités, sur ce qui reste de plus important, les émotions. Il est centré sur les émotions. Dans ce récit, dans ce film, il n'y a quasiment pas d'intrigue, il n'y a quasiment pas de fil narratif ou dramaturgique. Au fond, on se demande, pendant une grande partie du film, où il nous emmène. C'est assez curieux, on a des conversations futiles, assez oiseuses, on s'ennuie pas pour autant, encore une fois parce qu'il respecte ses personnages, parce qu'il est à hauteur d'homme, et la dernière demi-heure sur un film d'une heure et demie fait basculer le film. La femme du personnage principal, Greta, Angelica Houston, comme par hasard, lui révèle à son époux que la chanson, une chanson lors de la fête, de la soirée, lui a fait penser à un jeune homme de 17 ans qui l'a aimé et qui, dans son esprit, est mort pour elle. Ça fait totalement basculer le film, car en fait, on passe du futile à la gravité. Ce personnage principal, Gabriel, se dit « Quel triste rôle j'ai joué dans ta vie ». Voilà. Il se dit « Finalement, j'ai été un remplaçant ». Voilà. C'est assez saisissant.
Fernando Gonzo, on ne vous a pas encore entendu depuis le début de cette émission. Je crois que c'est peut-être votre film préféré de John Huston.
Je pense, oui. Et par ailleurs, c'est étonnant que cette drôle de filmographie se finisse avec encore une adaptation, en l'occurrence Joyce. Et effectivement, cette phrase, elle est formidable. C'est toujours ce qui est beau chez Huston, c'est le moment où les personnages vont sortir une espèce de vérité intime comme celle-là et qui est bouleversante. On parlait des accès Misfits. J'aime beaucoup quand Marilyn Monroe dit « Ce que je supporte pas, c'est que tout change tout le temps ». Et donc dans ce monde, avec une absence de religion, effectivement, que ce soit un personnage féminin qui parle du changement, alors que par exemple chez Peckinpah, ça aurait été effectivement un homme traumatisé et alcoolisé qui l'aurait dit, je trouve que ça porte une vérité du personnage qui est étonnant, à tel point que parfois je pense même que le personnage disent des choses sur Houston, quelque part on peut s'amuser à voir ça, ou son cinéma aussi étrange. Par exemple, je pense toujours à cette phrase qu'a dit Jennifer Jones dans Beat the Devil.
Plus fort que le diable.
Plus fort que le diable, quand elle dit à Humphrey Bogart, pour tomber amoureuse d'un homme, il faut qu'il soit tout à fait différent des autres, soit exactement pareil, mais le plus fort des Normands. Et je trouve que le cinéma de Houston est entre les deux choses, quoi. Il y a une espèce de bizarrerie qui vient du fait d'être parfois dans la grande aventure, avec une espèce d'ambition pour faire plus fort qu'Hollywood, mais plus fort qu'Hollywood, et avec des pas de côté où il va être dans un cinéma marginal, très bizarre formellement, où il va regarder effectivement des personnages qui sont des laissés pour compte, des marginaux. Et donc c'est ça qui est étonnant aussi, jusqu'à quel point ces personnages parfois décrivent une vérité de son propre cinéma.
Et c'est ce qui fait sans doute qu'il n'y a pas beaucoup d'héritiers de Houston. Je ne crois pas que beaucoup de gens aujourd'hui se réclament de lui. Vous en repérez un tout de même qui occupe aujourd'hui dans la psyché cinéphilique en général la même place qu'occupait Houston à la fin de sa vie. Le vieux cinéaste qui tourne toujours, l'incarnation du classicisme hollywoodien, c'est évidemment Clint Eastwood.
Tout à fait, Antoine. Il y a une similitude physique, pratiquement. Deux grandes carcasses d'un mètre 90, décharnées, burinées. Il y a une similitude dans les centres d'intérêt. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, Eastwood s'intéresse dans énormément de films à l'héroïsme. Qu'est-ce que l'héroïsme ? Qu'est-ce qui conduit à être un héros ? Et chez Houston, on trouve quelque chose d'assez proche. On trouve cette réflexion qu'on a abordée en filigrane sur la masculinité. Finalement, chez Houston, les mâles sont souvent en crise, ce qui est paradoxal par rapport à sa représentation de la masculinité. Lui-même a passé son temps à affirmer qu'il était viril, au fond. En buvant énormément, en se bagarrant, y compris avec Errol Flynn dans une soirée chez Selznick, en s'engageant prétendument dans l'armée mexicaine en 1926. Enfin voilà, je veux paraître bravache, je veux être une espèce de Hemingway, et en réalité, on peut penser que Houston est tout autre chose. J'allais dire au fond, au tréfonds de son âme. On peut penser qu'il est hanté par la lâcheté. C'est ce que dit d'ailleurs Guy Hamilton, qui était assistant sur African Queen, hein, qui ensuite a été réalisateur de quelques James Bond. Guy Hamilton dit « Le secret de John, c'est qu'il était terrifié à l'idée d'être pris pour un lâche. » Et ça, ça renvoie, à mon sens, à une représentation, une définition d'Hemingway. Jérôme Charin disait, à propos d'Hemingway, « La vérité de son odyssée est que toute sa vie, il a lutté contre sa lâcheté. » Je pense que là, on touche à la vérité de l'homme, très probablement.
Merci Christophe Leclerc, vous avez mentionné James Bond, et bien on se quitte sur la musique composée par Burt Pacara pour Casino Royale, cette pochade parodique de James Bond, film collectif auquel John Huston avait fourni le premier segment. Votre livre, Le cinéma de John Huston, entre l'épique et l'intime, est édité par Publibook. On signale également la parution chez Capricci de John Huston par Lillian Ross, qui rassemble les écrits au long cours de la rédactrice du New Yorker sur le cinéaste de 1949 à 1986. La même a écrit sur Truffaut de 1960 à 1976. Ces textes sont également publiés par Capricci. Et puis, Houston fait encore l'objet d'un long chapitre dans le livre de Jean-Philippe Coste, La sagesse du 7e art, ou comment répondre aux grandes questions avec le cinéma anglo-saxon, un cinéma structuré, selon lui, par le clivage entre le profane et le sacré. John Huston, on ne s'en étonnera pas, quoique, est rangé parmi les cinéastes du profane. Luz, votre passionnant Hollywood menteur sur le tournage des Misfits de John Huston, vient de sortir aux éditions Futuropolis. Et puis, on peut en admirer les planches originales et même les acquérir à la galerie Huberti et Brain à Paris jusqu'au 4 mai. Côté rétrospective, ne ratez pas celle consacrée à Anthony Mann à la Cinémathèque de Toulouse. C'est à partir de demain et jusqu'au 31 mai, à fréquenter avant ou après avoir réécouté le plan large que nous avions consacré à l'immense contemporain de John Huston. C'était le 23 février dernier. Deux sorties DVD encore à vous signaler. Les Amants du Capricorne de Hitchcock en Blu-ray pour la première fois dans une très très belle copie restaurée. C'est chez l'Atelier d'Images. Charlotte Garçon nous en avait parlé ici même le 9 mars. Et puis dans la série Film Noir, The Intruder, excellent film tourné par Roger Corman, réalisé au cœur de l'Amérique ségrégationniste en 1961, ou comment un homme sème la haine dans une petite ville du sud des États-Unis, ville qui s'oppose à l'intégration des élèves noirs dans un lycée de blancs. Près de 60 ans après, évidemment, le film reste très actuel. C'est encore chez Carlotta. Après toute cette américanophilie, il est temps d'un peu de culture bien française, quoique.
Savez-vous ce que monsieur Racine dit?
Encore un coup, vivez.
Non. Il dit qu'elles ont toutes les grâces de l'enfance, Seigneur, sans les séductions
je
de la jeunesse.
Je n'ai jamais contemplé qu'avec crainte.
Ouvre, monsieur Racine.
Majesté, sur votre front.
Ces ardeurs où sa vue, qui les faille. Regardez, regardez donc, les grâces de l'enfance.
Dans mon âme troublée, a dû jeter d'effroi. Sur ce trône sacré qu'environne la foudre, j'ai cru vous voir tout prêt à me réduire en poudre. Hélas, sans frissonner, quel cœur audacieux soutiendrait les éclairs qui partaient.
Il est vrai que la cour manque cruellement d'marchandises fraîches ces derniers temps.
Sans frémissement, je ne puis.
Comment imaginer que maintenant nous livre ici ce qu'on nous refuse là-bas?
Calmez la frayeur qui vous presse. Du cœur d'Assuérus, souveraine maîtresse.
Ne vous souciez pas des caquettements de la basse-cour, madame. Vous gâcheriez votre plaisir et le nôtre.
Et toute ma grandeur me devient insipide, tandis que le soleil éclaire ce perfide.
Vous serez de sa vue affranchi dans 10 jours.
Ah, que ce temps est long, hein, mon impatience. C'est lui, je te veux bien confier ma vengeance. C'est lui qui, devant moi, refusant de ployer, les va livrer au bras qui les a foudroyés. C'était trop peu pour moi d'une telle victime. La vengeance trop faible attire un second crime. Un homme tel qu'Aman, lorsqu'on l'ose l'irriter, dans sa juste fureur ne peut trop éclater. Il faut des châtiments dont l'univers frémisse, qu'on tremble en comparant l'offense et le supplice. Je veux qu'on dise un jour aux siècles effrayés, un seul osa d'Aman attirer le courroux. Aussitôt de la terre, ils disparurent tous.
Coup de maître de Patricia Mazui en 2000 avec Saint-Cyr qu'on vient d'entendre et son Isabelle Huppert en Madame de Maintenon et Maquignon de Jeune Fille. Des coups de maître, il y en a eu beaucoup dans sa carrière à Patricia Mazui depuis Peau de Vache qu'il avait révélé il y a 30 ans en 1989 en passant par Travolta et moi, réalisé pour la collection Tous les garçons et les filles de leur âge, produite pour Arte par le très regretté Pierre Chevalier, et puis encore Basse Normandie et Sport de filles, tiens, joli lapsus. Et pourtant son dernier film, justement, l'excellent thriller Paul Sanchez est revenu et sorti dans une certaine discrétion, pour ne pas parler d'indifférence. C'était au milieu de l'été dernier, en juillet 2018. Heureusement, ce film, dans son dernier numéro, s'intéresse à cette amoureuse du western, fascinée par l'érotisme des moissonneuses batteuses, en lui consacrant une interview. On y apprend beaucoup de choses, notamment que son premier film, Peau de Vache, est un remake masqué de José Wells Hors la Loi, de Clint Eastwood, puisqu'on en parlait. Et on apprend qu'elle a grandi à Dijon, en regardant des films avec Charles Bronson et des westerns de Sam Peckinpah. Et on apprend même qu'elle a voulu réaliser la suite du Privé de Robert Altman avec Elliot Gould, et que ce qu'elle aime par-dessus tout, ce sont les vaches. Bref, une personne éminemment fréquentable, Fernando Ganzo.
Oui, il y a une filmographie aussi éminemment fréquentable. Vous avez rappelé beaucoup de titres qui sont autant d'excuses pour vouloir rencontrer Patricia Mazui et faire un entretien avec elle. Mais effectivement, il faut avouer que la volonté et l'envie de la rencontrer est venue surtout d'une conviction, c'est que Paul Sanchez est revenu, était un des meilleurs films français de l'année dernière, et qu'en revanche, il n'a peut-être pas reçu l'attention qu'il méritait. Et c'est donc la première chose dont Patricia Mazui nous parle, avec un peu de résignation, quand elle nous explique que dès que le Festival des Cannes n'en a pas voulu en sélection officielle, ça a rendu les choses très compliquées. Et c'est ça la triste réalité de beaucoup de films français qui vont se retrouver avec une sortie l'été. S'il y a des distributeurs qui nous écoutent, ils savent jusqu'à quel point c'est particulier sortir l'été. C'est encore une fois dommage pour un très beau film qui s'inscrit en plus parfaitement dans la filmographie de Mazui, à tel point qu'elle même se rend compte maintenant des points communs avec son premier long métrage, Peau de Vache. Le fait d'avoir un fait divers comme point de départ, dans Peau de Vache, c'est l'incendie inoubliable de la ferme, et l'exploration surtout d'un territoire de la campagne française avec les codes du western, qui est, Antoine, en effet, un mot qui revient souvent quand on discute avec Mazui, western. Et effectivement, il avoue avoir, même, c'est pas juste inspiré, mais il avoue avoir copié un peu dans ce premier scénario sur Josie Wells Hors la Loi de Clint Eastwood, ce qui pourrait sembler étonnant, mais en même temps, quand on parle avec elle, on se rend compte que tout est étonnant chez Mazui. Surtout son cinéma, qui est si maîtrisé et parfois si viscéral, comme s'il avait été fait par une technique d'improvisation très simple. Alors, par exemple, la fin de Peau de Vache, Mazui va la changer en cours de tournage parce qu'elle se rend compte qu'elle aime beaucoup trop le personnage de Stephenin et décide alors qu'il ne meurt plus, comme il était censé mourir, c'est-à-dire décapité. Et justement, cette fin, ceux qui ont vu le film se souviendront, avec ces travelling où Stephenin et Sandrine Bonner se retrouvent, s'éloignent, ce plan que Rivette a dû aller voir une deuxième fois au cinéma pour être sûr de ne pas l'avoir rêvé. Et bien, Mazui nous raconte qu'elle avait demandé en fait 100 mètres pour faire un travelling, justement pour qu'on lui laisse tranquille. Parce qu'en fait, elle ne savait pas quoi faire de cette fin. Donc, elle a dit, ah bah, donnez-moi du travelling. Et une fois qu'il a dû l'utiliser, elle s'est retrouvée un peu obligée à les dissimuler en même temps, parce qu'elle trouvait ridicule quand même de faire un travelling de 100 mètres. Conséquence, le travelling est là, mais il s'arrête, on revient en arrière, comme pour l'effacer. Et donc, c'est cette, je sais pas, cette espèce de dispute intérieure entre raison et désir, entre l'épique et l'intime, peut-être, Christophe, entre la volonté et l'obsession, entre la logique et l'intuition. Voilà, une succession de mouvements dans un sens ou le contraire qui fait peut-être la force de son cinéma. C'est pour ça qu'elle a passé d'un premier film où elle avait rien préparé, parce qu'elle avait fait avant un court-métrage où elle avait tout bien calculé et que le résultat était nul, d'après elle, à, par exemple, avoir beaucoup répété pour Paul Sanchez est revenu. Et cet esprit de contradiction est aussi dans Saint-Cyr, effectivement, un espèce de coup de maître, un film d'époque qui est très maîtrisé, mais où toute la folie du personnage d'Isabelle Huppert se concentre sur un moment où Mazoui a décidé d'improviser, comme elle nous raconte. C'est un tout petit détail. Hein. Madame de Maintenon est dans sa baignoire. Son entreprise d'école des filles utopique est tombée à une obsession jansénite et il y a une espèce de folie égocentrique d'elle-même. Et il y a une de ses élèves qui vient se disputer avec elle. Et à ce moment-là, on comprend que Madame de Maintenon est folle. Comment elle fait ça, Mazoui ? Bah, elle décide de donner à Huppert un petit miroir qu'elle va tenir dans sa main pendant qu'elle discute avec son élève. Et quand on connaît un peu la maîtrise que l'actrice Isabelle Huppert a de sa propre image, on sent tout de suite l'intelligence des cinéastes de Mazoui. Le résultat est une séquence terrible et magnifique, comme la fin de Travolta et moi, ou celle de Paul Sanchez. Il est là, dans cette frontière, je crois, le territoire de Mazoui. C'est là qu'elle est chez elle, justement. Parce que, dernière contradiction, alors qu'elle est revenue travailler à Paris, comme elle nous raconte, elle n'a jamais filmé cette ville. Et elle dit, c'est peut-être aussi que je ne me suis jamais senti chez moi à Paris. Si je suis revenue, c'était pour pouvoir travailler plus. Mais moi, ce que j'aime vraiment, ce sont les vaches.
Merci Fernando Ganzo, on se quitte sur le Shake Your Body de Michael Jackson qui rappellera à certains une belle scène de patinage dans Travolta et moi de Patricia Mazoui. Une interview à retrouver dans le nouveau numéro de Sofilm avec une couverture complètement schizophrène qui réjouira à la fois les amateurs de Game of Thrones et ceux de la Casa de Papel, numéro spécial série de Sofilm. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Alex Dang. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Massimo Bellini. La semaine prochaine, plan large sur un cinéaste qui avait le vent en poupe il y a 20 ans et dont on serait bien en peine de voir un film sur grand écran et même en DVD aujourd'hui en France, Al Hartley. On se réjouit donc qu'un livre lui soit consacré, accompagné par un film inédit de 2004 en DVD, The Girl from Monday. Nous recevrons celui qui a dirigé ce livre collectif, Mathieu Germain, accompagné d'une ancienne égérie d'Al Hartley, Elina Lewenson elle-même. Et puis Mathieu Macheret nous parlera des rééditions de films de Fellini qui accompagnent l'exposition que lui consacre la Cinémathèque française. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard. Something to get closer to your soul.